Et moi, je n'ai pas oublié qu'en ce lundi, nous recevons François de Beaulieu. François, bonjour. Je vais tout de suite vous céder la parole parce que je sais que vous avez du stock, comme on dit ce matin.
Oui, bien tout d'abord, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous Clotilde.
Bonjour mon ami.
Ça fait plaisir de vous voir dans une forme...
éblouissante.
Pour un lundi matin. Alors effectivement, rentrons dans le vif du sujet parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Nous sommes lundi matin et si vous en souvenez... Eh bien, effectivement, c'est le sujet de la chronique que je viens vous proposer. Alors, ça voulait dire quoi? Je vous le rappelle, une innovation, une initiative, quelque chose qui fait une différence dans la vie des gens, où que ce soit à travers le monde, une différence heureuse, parce qu'avec les revues de presse que vous nous donnez chaque jour, effectivement, les nouvelles ne sont pas toujours très joyeuses. Alors là, eh bien, avec ces innovations, ces initiatives, on peut espérer des lendemains meilleurs. Et quand on parle de lendemains meilleurs, c'est aussi en pensant aux générations futures et aux enfants donc qu'on le fait. Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde et ce matin, je vous propose d'aller à la rencontre d'un pays qui a su réinventer son système éducatif avec des résultats qui font rêver. Alors destination, la Finlande. La Finlande, c'est ce pays d'Europe du Nord qu'on connaît peu, qu'on connaît mal. Ce qu'on en connaît, bien évidemment, c'est que c'est bordé d'eau, qu'il y a évidemment là-bas des chefs d'orchestre de réputation internationale, de la vodka, des entreprises de technologie comme Nokia, des joueurs de hockey. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est un pays qui, dans les années 70, a vécu une crise économique terrible. Et à cette époque-là, il y avait au gouvernement des hommes, des femmes qui ont fait preuve d'un courage politique particulièrement rare. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au lieu de faire ce que bien des pays feraient face à une situation économique dramatique, comme c'était leur cas à cette époque-là, ils ont décidé qu'au lieu de patcher, de mettre une petite mesure ici, une autre là pour... revamper, relancer le système industriel, le système économique. Ils se sont dit, voilà une situation douloureuse pour tous, on va en faire une opportunité. Ils se sont dit, on va regarder ce que nous voulons faire de notre pays pour le 21e siècle. Je vous rappelle, c'est 40 ans derrière nous. Et donc, ils ont fait preuve de cette audace, de ce courage, et ils ont transporté leur pays dans le 21e siècle. Ils ont eu cette vision. Et ça a passé par la refonte de bien des fondations de leur pays et entre autres par la refonte de leur système éducatif. Ils ont réinventé l'école et l'éducation des jeunes. Alors ce que je vous propose, c'est effectivement de mettre le cap sur la Finlande sans plus tarder, d'aller découvrir ce qu'ils ont fait d'étonnant là-bas et de le faire à travers deux articles. L'un que j'ai trouvé dans l'actualité qui est daté d'avril 2014 et l'autre dans un blog qui est relié à un film, à un documentaire dont je vous ai du reste déjà parlé, qui s'appelle « Demain », et dont j'aurai l'occasion de vous reparler prochainement en vous donnant les dates de disponibilité ici au Québec, parce que ça s'en vient. Alors, ne perdons pas plus de temps, transportons-nous en Finlande, allons à la rencontre d'un homme avec qui j'ai échangé grâce à Facebook, parce que je trouvais l'histoire tellement étonnante, j'ai voulu en savoir plus, et il a eu la bonne idée de me répondre. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure, mais... Nous sommes donc maintenant en Finlande. Il y a cette petite ville à côté d'Helsinki, la capitale de la Finlande, qui s'appelle Espoo. Et l'homme dont je vous parle s'appelle Kari Luivuori. Et il me pardonnera si la prononciation n'est pas la meilleure. Qui est-il? Il est le principal d'une école qui est la Kirkkojärvi Comprehensive School, donc à Espoo. Alors il y a 40 ans, la Finlande s'est penchée donc sur les réformes nécessaires à son système éducatif. Elle l'a fait dans le cadre d'un plan de sortie d'une crise économique terrible et elle a fait le pari d'une école publique égalitaire. Alors ce n'est que dans les années 2000 que le pays a pris la pleine mesure du succès de cette entreprise, quand les premiers résultats du PISA, le PISA c'est un test qui est organisé pour les écoliers de 15 ans dans les pays de l'OCDE et ce test porte sur les mathématiques, les sciences et la lecture. Et il permet donc de déterminer dans quel pays on trouve effectivement les meilleurs éléments. Au début des années 2000, à l'occasion donc de ce test, le PISA, on s'est rendu compte que les Finlandais étaient les meilleurs jeunes lecteurs au monde. Trois ans plus tard, on découvrait qu'ils étaient les meilleurs en mathématiques. Et en 2006, la Finlande était en tête pour les sciences, devançant 47 autres pays. Alors notre ami Kari Louis-Vuori nous explique un petit peu sur quoi tout ça est basé. Et en particulier, donc, quel est le principe, quelle est la philosophie de son école? Eh bien, il nous dit que c'est extrêmement simple. Ici, nous apprenons aux enfants comment apprendre. Et nous leur apprenons à se préparer à la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de donner les rudiments d'une machine qui va être la même pour tout le monde, et ensuite de forcer du contenu à rentrer dans cette machine, et puis à valider de façon inlassable avec des tests, des examens qui deviennent obsessionnels et extrêmement stressants pour tous, eh bien, eux ont décidé de prendre le contre-pied de tout ça. Ils apprennent simplement aux enfants comment apprendre, et ils les préparent à la vie. Et si une méthode ne fonctionne pas avec un élève, eh bien, c'est la méthode que l'on va changer, parce qu'on considère qu'elle ne lui est pas adaptée. Mmh. Et on ne va pas donc pousser l'élève jusqu'à effectivement le diaboliser s'il ne réussit pas. Alors voilà une différence qui est fondamentale, mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque l'un des élèves originaires du Kosovo, donc un des élèves de notre ami Kari, qui est originaire du Kosovo, s'est trouvé en échec scolaire complet, après plusieurs approches tentées par les professeurs, Kari Louis-Vuori n'a pas hésité à prendre des mesures extrêmes pour la Finlande. Il l'a fait redoubler. Et c'est extrêmement rare là-bas, voire obsolète. Et il a décidé alors d'en faire son étudiant personnel. Ce jeune, qui s'appelle Bessard, quand il n'étudie pas la science, la géographie ou les mathématiques, il est assis à côté de Kari lorsque celui-ci enseigne, et il lit lentement, un à un, les livres qu'on lui donne pour finalement les dévorer par dizaines. À la fin de l'année, ce fils de réfugié de guerre kosovar a adopté la langue locale, et il a réalisé qu'il pouvait, comme tous les autres, apprendre ce qui lui était enseigné à l'école. Alors cet exemple en dit long sur les raisons du succès du système éducatif là-bas. Parce que dans l'établissement dirigé par Kari, 43% des élèves sont issus de l'immigration. Un grand nombre d'entre eux ne parlent pas le finnois à leur arrivée à l'école, et donc les professeurs se sont adaptés à ce nombre particulièrement important d'enfants ne parlant pas leur langue. Ils ont d'abord créé des classes préparatoires qui permettent aux enfants de commencer un apprentissage en art, en sport, en travaux pratiques, tout en appréhendant la langue finnoise. Et ils intégreront plus tard d'autres matières lorsque leur maîtrise du finnois le leur permettra. Alors, pas d'inspection, pas de test standardisé pour les professeurs ou les élèves, pas d'inspecteur de l'éducation nationale, pas d'examen de fin d'année, un seulement à la fin du lycée. Voilà ce qui fait bien des différences. Alors, quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Une classe, là-bas, c'est une vingtaine d'élèves.
Ah oui, c'est ça, parce que ça me brûlait les lèvres. Je me disais, ils ne peuvent pas être 50 comme en France.
Hein. Et ils sont supervisés par un professeur et un assistant.
Ah oui.
Et ça ne s'arrête pas là. Le pays a investi dans la formation de ses enseignants. Ils sont tous professeurs et assistants du primaire avec une maîtrise en poche. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ne gagnent certainement pas comme un médecin ou un avocat. Mais il bénéficie par contre dans la société d'un prestige comparable à ces deux professions. Alors voilà pourquoi les facultés d'éducation reçoivent parmi les meilleurs étudiants du pays. Quelques chiffres pour comprendre.
Oui.
Là-bas, nous avons 5,5 millions d'habitants. Ici, au Québec, 8,5 millions.
8 millions et demi, oui, à peu près.
On pourrait se dire que les données sont différentes. Eh bien non. Le taux de diplomation à l'issue, effectivement, du secondaire, 97% en Finlande jusqu'en 2010, ils sont qu'à 95% aujourd'hui, et croyez-moi, ils travaillent fort pour remonter. Au Canada, 81%, au Québec, 88%, la moyenne des pays membres de l'OCDE, 84%. Alors, parlons chiffres à nouveau, les moyens qu'ils mettent à leur disposition, eh bien, vous seriez étonnés, Clotilde. La Finlande, les États-Unis et le Canada allouent grosso modo le même pourcentage de leurs dépenses publiques à l'éducation, soit de 12 à 13%. Alors voilà une histoire qui évidemment est intéressante. Imaginez que chaque année, il y a des missions qui proviennent de pays très nombreux et qui viennent sur place comprendre quel est le modèle finlandais pour voir ce qu'ils peuvent en retirer, voire le copier ou s'en inspirer. Et ils ont bien raison. Et tout à l'heure, je parlais de l'échange que j'ai eu directement avec notre ami Kari.
Oui.
Et je lui disais combien j'ai été effectivement impressionné par leurs résultats. Mmh. Et il me disait avec beaucoup, vous savez, de simplicité et d'humilité, il me disait, vous savez, oui, on a marqué des points, ça a pris du temps, on a fait un pari, on l'a gagné, mais on ne le prend pas pour acquis, on ne mmh. se repose
non,
pas.
C'est ça.
Et on est en permanence à l'écoute de nos jeunes parce que nous savons qu'un enfant heureux, c'est un enfant qui viendra apprendre.
Mmh.
Parce qu'il sera
mmh,
heureux de venir
exactement.
À l'école. Alors voilà tout ce qui fait une différence, une belle différence. Et je pense qu'à nouveau, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Mmh. On peut s'en réjouir parce qu'il y a des modèles qui nous montrent qu'effectivement, la porte est ouverte pour des lendemains meilleurs. Et en l'occurrence,
oui.
pour nos jeunes, pour nos enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
C'est très, très gentil. Et la question qu'on se pose, c'est mais pourquoi ça ne fait pas des petits, quoi? Pourquoi? Comment se fait-il qu'on ne mette pas en place des choses qui fonctionnent chez les autres? De la même façon qu'à l'étranger, on met des choses en place qui fonctionnent au Québec. Combien de fois on entend dans les journaux d'information française, par exemple, au Canada, ils font ça, au Québec, ils font ça, entre autres sur l'autisme, par exemple. Il paraît qu'on est beaucoup plus avancé en système d'éducation pour les enfants autistes, et pourtant on se plaint beaucoup. Mais voyez-vous donc, c'est pas tout négatif ici au Québec.
Absolument, absolument.
Mais il faut qu'on aille chercher ça les uns. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup François. C'est toujours très, très éloquent ce que vous nous racontez.
Merci de m'accueillir.
Je vous souhaite une belle semaine.
À vous aussi. Bonne semaine à toutes, à tous.
Au revoir.